Paul dira « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». C'est de cette vie qu'on veut parler ce matin au travers de ce nouveau chant qu'on va apprendre ensemble qui dit « Ta vie est ma couronne ». Et ce chant nous dit aussi que le désert nous façonne. Vous savez, souvent on pense qu'on est en train de vivre une attaque diabolique là, alors qu'en fait il y a Dieu qui utilise ses circonstances pour nous façonner, pour nous rapprocher plus près de son cœur. Et c'est tout l'enjeu de ce chant qu'on va apprendre ce matin. Alors on va apprendre le refrain tous ensemble avant de commencer à chanter le chant. Et puis on va suivre Lucian à la guitare.
Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu.
Voilà, ça chante tout seul et maintenant on va démarrer le chant tous ensemble.
Tu es mon Dieu.
Tu ne changes pas, Seigneur. Oh, nos yeux sont fixés sur toi. C'est toi qui tiens nos vies dans tes mains, Seigneur. Nul ne peut nous ravir de ta main, Seigneur, ce matin. On veut élever la voix tous ensemble ce matin. Est-ce qu'il y a une église qui veut proclamer « Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu ». Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu avec nous, il est le Dieu présent. Il ne change pas ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Ta gloire, ta gloire, tu
encourager quelqu'un ce matin. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu n'a pas détourné son regard ou s'occupé d'autres situations. Il connaît l'épreuve par laquelle tu passes. Il connaît les circonstances qui semblent te recouvrir comme des vagues lors des tempêtes, comme peut-être tu vois ça comme un tsunami sur ta vie. Ton Dieu te dit qu'il est au contrôle ce matin. Il t'invite juste à lui faire confiance. Il t'invite juste à placer ta foi en lui. De croire qu'il sait ce qu'il fait avec toi ce matin. Il sait où il te conduit. Il sait où il t'amène. Mais il t'appelle à placer ta confiance en lui et à lui obéir. Les brebis connaissent la voix du Seigneur. Tu sais que Dieu est en train de te travailler, en train de te parler. T'invite à pas résister ce matin. Et face à ce tsunami, de continuer de t'avancer en t'appuyant sur lui. Il est le Dieu au contrôle de ta vie, te dit le Seigneur. On va répondre à cette parole en prenant ce chant qui dit « Je m'abandonne ». S'abandonner, c'est décider de laisser les rênes à Dieu. Je crois que ce matin, pour plusieurs, Dieu nous appelle à laisser les rênes. On cherche à tout contrôler, à tout maîtriser. Mais il nous invite à cette dépendance de lui. Notre orgueil nous conduit à rester indépendant. Mais ce que notre Dieu veut, c'est une dépendance à lui, à sa grâce, à son amour, à sa bonté, à sa direction. Il veut diriger ta vie ce matin. Si c'est notre cas ce matin en tant qu'église, je vous invite à prendre ce chant « Je m'abandonne » peut-être pour s'il y en a qui se sont assis, à vous lever pour dire « Oui, je veux m'abandonner encore à toi, Seigneur. Encore une fois ce matin, je veux prendre ce pas de t'obéir et de te suivre. »
So Seigneur, on s'abandonne à toi encore. On a tout à gagner, à s'abandonner à toi. On a tout à gagner, Seigneur, à vouloir être dirigé par toi, à vouloir ce que tu diriges nos vies dans tous les domaines de nos vies. Peut-être on a encore des domaines où on veut garder la main dessus. Seigneur, on te les remet ce matin. Ça peut être par rapport à notre famille, par rapport à nos finances, par rapport à notre travail, par rapport à un point d'obéissance dans notre vie. Seigneur, on veut tout te remettre entre tes mains, même si c'est dur de lâcher, c'est dur. Mais Seigneur, on a tout à gagner, à tout te remettre. Alors ce matin, on te dépose tout encore à tes pieds. Et on décide de prendre ton fardeau qui est doux et léger. Seigneur, merci. Parce que tu es capable de diriger nos vies. Nous sommes incapables, Seigneur, d'être notre propre Dieu. Mais toi, tu es capable. Tu es souverain sur nos vies. Tu gères toutes choses. Et tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Et ce matin, on nous déclare, on t'aime, Seigneur, et tu es souverain sur nos vies. Et on te remercie. On te remercie d'être le roi de notre cœur, d'être le roi de notre vie ce matin. Amen. Amen. Ça fait du bien de s'abandonner à Dieu. Yes, on peut prendre nos places. Merci à l'équipe de Louange encore ce matin. Bienvenue à chacun, chacune. Peut-être c'est les premières fois que tu nous visites. Bienvenue aussi à toi. On est heureux de t'accueillir ce matin. Puis notre désir, notre souhait, c'est que tu rencontres Dieu. Raymond Pierre l'a dit, celui qui chantait, qui dirigeait la louange, la vie éternelle, c'est de le rencontrer lui. Et ce matin, et tous les dimanches, et toutes, chaque semaine, c'est le message qu'on prêche. On veut que tu rencontres Dieu parce que c'est lui qui apporte la vraie liberté. Et si tu veux aussi apprendre à connaître des gens, on a des groupes la semaine, ce qu'on appelle les groupes de vie. Donc n'hésite pas à aller au point accueil. Il y a des groupes pour les jeunes, il y a des groupes pour les aînés, pour les familles. Il y a des groupes vraiment pour rejoindre chaque génération et chaque centre d'intérêt et puis chaque zone géographique aussi autour de Strasbourg. Donc n'hésite pas à aller au point accueil pour voir quel groupe pourrait te convenir. On a une annonce importante ce matin, et je vais laisser Mathieu la faire, c'est concernant la prochaine AGE qui aura lieu le 9 juin. Donc je lui laisse faire l'annonce.
AGE, Assemblée Générale Extraordinaire. Je suis très content, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le conseil d'église, composé du conseil d'administration, de l'équipe pastorale et du conseil spirituel, est heureux de pouvoir vous dire qu'on va présenter une première partie d'un projet concernant l'avenir de l'EPI, notamment ses bâtiments, ses locaux actuels. Ça aura lieu le dimanche 9 juin à 11h. Donc, ce sera un rendez-vous incontournable pour l'EPI, pour les participants à la vie de l'EPI, pour les amis de l'EPI, pour les membres administratifs de l'EPI. Comme on l'a annoncé en mars, on a choisi d'effectuer cette présentation, cette première partie de projet, dans un cadre, l'Assemblée Générale Extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un quorum qui est plus exigeant. On attend une représentation, une représentativité d'au moins 2/3 des membres associatifs de l'Église. Pourquoi ? Parce que nous avons urgemment besoin de l'avis exprimé d'un plus grand nombre possible de personnes membres de l'Église pour ce projet. Nous sommes 800 participants réguliers à chaque mois. Nous sommes 543 membres associatifs et nous avons donc besoin, calcul en trois, de 362 voix exprimées ou représentées par procuration pour atteindre le quorum lors de cette assemblée générale. Ça n'a jamais été atteint dans l'histoire de l'EPI, c'est pourquoi on va vivre un moment historique à l'EPI. Ah, merci beaucoup pour les amens. Sans une forte proportion de voix exprimées, ça va être compliqué pour nous de pouvoir avancer sur les travaux que nous avons démarrés, sur les démarches que nous sommes en train de prendre, parce que vous allez le découvrir, le projet, il est inspirant, il est prometteur, mais il est aussi extrêmement exigeant dans les années qui arrivent. Du coup, soyons mobilisés. Et si vous ne pouvez pas être présent, pensez procuration. Buvez un café, procuration. Allez au travail, procuration. Dans votre heure de prière avec Dieu, procuration. Si vous pouvez pas être là le 9 juin, vous êtes en couple et votre épouse ou votre époux peut être là, vous lui donnez la procuration. Vous avez des membres de la famille qui sont membres à l'EPI, vous pouvez leur donner la procuration. Vous êtes dans un groupe de vie, un service. Vous pourrez pas être là le 9 juin, vous pourrez lui donner votre... Oh, génial, ça c'est bon ça. Dans la semaine qui arrive, les membres associatifs de l'église vont recevoir par mail le livret de présentation du projet dans votre boîte mail, du coup. Et donc, vérifiez bien vos spams. On ne sait jamais, ça peut tomber dans les spams ou autre. Donc, vérifiez bien, vous qui êtes membre associatif de l'EPI, vous qui avez fait cette démarche de devenir membre associatif, vérifiez votre boîte mail parce que vous allez avoir le livret de présentation disponible. Et si vous ne l'avez pas reçu cette semaine, ce n'est pas la fin du monde. Les petits problèmes techniques arrivent. C'est pourquoi on aura toute une équipe qui sera donc au fameux point maintenant de rencontre avec le conseil d'administration au fond de cette salle. Il y aura un stand, il y aura une équipe qui sera là pour vous écouter, pour être à votre question. Et le livret de présentation sera présent au format papier. Donc si tu es membre administratif, tu n'auras pas reçu le mail, ou tu es un ami de l'EPI, ou tu vis la vie de l'église de l'EPI avec nous, tu auras aussi accès à ce livret dimanche prochain. Dans l'intervalle jusqu'au 9 juin, jusqu'à l'Assemblée Générale Extraordinaire, nous allons avoir deux rencontres Zoom qui vous permettront à vous les membres et les participants à la vie de l'Église de vous connecter. On aura des temps de questions-réponses parce qu'on imagine bien qu'il y a beaucoup de questions qui vont aussi fleurir avec cette présentation, avec ce projet. En tout cas, je vous rappelle simplement les informations importantes. Rendez-vous le 9 juin, c'est l'endroit où être, le rendez-vous incontournable. Soyez présents et si vous ne pouvez pas être présents, le cas échéant, pensez à votre procuration, incroyable. Alors je vous souhaite une bonne découverte du projet pour nos locaux, cette rue des Frères Hébert, pour ce projet, cette première partie qu'on voudrait vous présenter. Et je voudrais juste qu'on prie, parce que c'est pas anodin ce qu'on va vivre là, dans la semaine et dans les semaines qui vont arriver. Je voudrais simplement, au nom du conseil d'église, qu'on puisse prier pour que Dieu accompagne l'église dans ce temps de préparation, dans cette première partie de projet. Permettez-moi de prier pour vous, pour la lecture et la bonne découverte, et ensuite on enchaînera avec Jérôme. Seigneur, merci parce que depuis que tu as eu à cœur d'implanter l'église locale de l'EPI, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais tu as toujours été fidèle. Tu nous as accompagnés. Quand l'église a grandi, les plus anciens se souviendront que tu as toujours pourvu à tous nos besoins. Quand les locaux étaient petits, quand il fallait trouver des solutions, quand il y avait des moments même difficiles, tu as toujours été là. Nous croyons, Seigneur, que l'église de l'EPI, l'église locale de l'EPI, est sur ton cœur. Et je te prie, Seigneur, pour tous les membres de l'Église. Je te prie pour toutes celles et ceux qui font de l'EPI leur famille, afin que cette étape jusqu'à l'Assemblée Générale soit l'occasion vraiment de se mobiliser et de s'exprimer de manière à ce qu'on puisse continuer à avancer et que de nombreuses personnes ici à Strasbourg, dans l'Eurométropole, puissent continuer à avoir une Église visible, une Église rayonnante, une Église qui aime, a soif de Dieu, une Église aussi, Seigneur, qui est accompagnée avec ta sagesse. Alors merci, Seigneur, de bénir l'Assemblée. Merci de bénir aussi tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous en ligne. Certains nous regardent actuellement. On les bénit dans le nom de Jésus. Merci de bénir tout ce projet. À toi toute la gloire. Amen. Amen.
Merci Mathieu. Donc dimanche 9 juin, à noter à votre agenda, et une semaine avant, on voulait déjà annoncer le culte de l'entente, le dimanche 2 juin, où là ça va être sur Multisite, c'est la première fois qu'on fait ça, et l'EPI sera une église accueillante. On va accueillir l'église Miel, et l'orateur sera Erwan Kloarek, qui est président du CNEF. Donc dimanche 2 juin à 10h. On recule encore un petit peu, le samedi 25 juin, il y aura la fameuse Marche pour Jésus. Il y en a qui ont déjà participé à la Marche pour Jésus dans les années précédentes. Ok, donc là c'est le samedi 25 juin, c'est rendez-vous au Parlement européen, 25 mai, ouais, exactement, 25 mai, donc à 13h30 au Parlement européen. Donc pour toute info, je pense, ou pour accueil, il y aura peut-être un petit flyer avec toutes les informations concernant cette marche, donc le samedi 25 mai et non juin à 10h30 au Parlement européen. Et je termine avec ça, Freddy se tient encore dans le hall ou à l'arrière pour donner les reçus fiscaux par rapport aux déclarations d'impôts, etc. Donc n'hésitez pas à y aller, il reste encore quelques jours avant la déclaration, donc n'hésitez pas à y aller, Freddy se tient à votre disposition. Je vais inviter Mathieu qui va terminer notre série sur Éphésiens, puis est-ce que ça vous dit qu'on prie pour lui? Ok, on va prier pour lui. Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu parles à travers les chants, à travers les annonces et aussi à travers le message, on te prie de parler à travers Mathieu, on te prie de le remplir de toi. Si on veut ouvrir nos cœurs et être à l'écoute de ce que tu veux nous dire encore ce matin, alors viens nous parler, on va être disposé à t'écouter, au nom de Jésus, amen.
Merci Jérôme, effectivement, on clôture aujourd'hui une série de 6 messages sur la lettre de Paul aux Éphésiens, une lettre qui a été écrite à des chrétiens qui étaient en transition spirituelle, ils sont en train de réapprendre à vivre avec de nouveaux repères, notamment dans le domaine du combat spirituel. Il sera question ce matin du combat spirituel. Luc, qui est l'auteur des Actes des Apôtres dans la Bible, fait référence à plusieurs pratiques ésotériques observées à Éphèse. Il va parler par exemple de cultes qui étaient rendus à des divinités. Il va parler de rituels de délivrance réalisés par des exorcistes juifs. D'ailleurs, ça va très très mal se finir. Et puis, Dominique Angers, qui est professeur du Nouveau Testament et docteur en théologie, qui a fait un commentaire sur Éphésiens qu'on vous encourage à consulter, vraiment un très très bon commentaire, va préciser ceci. Un segment significatif de la population d'Éphèse se trouve lourdement engagé dans la magie et dans la sorcellerie. Le livre des Actes va pas que parler de ces pratiques occultes, mais va parler aussi de l'impact puissant de l'évangile dans ce terreau d'occultisme. On lit ensemble dans Actes chapitre 19, à partir du verset 18. « Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Sachant qu'à l'époque, une pièce d'argent, c'est une journée de travail. Ils ont brûlé plus de 50 000 journées de travail. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Paul est totalement conscient des enjeux et des pièges qui sont liés à l'arrière-plan spirituel des chrétiens d'Éphèse. Et c'est pourquoi il va conclure son enseignement sur le combat spirituel. Il veut continuer de les affermir dans la foi, les muscler dans le domaine du combat spirituel. On en arrive à Éphésiens chapitre 6, verset 10. Voilà ce que dit Paul. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. Dans d'autres traductions, fortifiez-vous. Non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Voici le premier encouragement. Ta victoire est assurée. Ta victoire est assurée. Fortifie-toi. Quand on parle de combat spirituel, d'épreuves, de tentations, d'oppression pour les chrétiens, nous avons besoin d'avoir une bonne compréhension de la temporalité dans laquelle Dieu nous rend victorieux. Dans la temporalité dans laquelle Dieu opère la délivrance. Si nous ne prenons pas en compte la temporalité, nous risquons de tomber dans le découragement ou décrocher spirituellement, surtout dans le combat de l'épreuve, de la tentation, de l'oppression. Et c'est pourquoi tout le long du chapitre, Paul nous appelle à nous fortifier, à tenir bon, à persévérer. Il y a un, excusez-moi le mauvais jeu de mots, mais il y a un en même temps que l'on retrouve en filigrane dans la lettre aux Éphésiens. J'ai déjà en Jésus une identité spirituelle. J'ai déjà en Jésus le salut. J'ai déjà en Jésus un appel. J'ai déjà en Jésus un héritage en Christ. Et en même temps, je dois me fortifier. En même temps, tu dois te fortifier. Parce que toutes ces ressources, la toute puissance infinie de Dieu n'est pas totalement et immédiatement efficiente en nous ou par nous. C'est ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. On retrouve ce principe dans l'Ancien Testament. Quand les prophètes prophétisaient ou quand on apportait des promesses de la part de Dieu, on les proclamait, ça c'est le déjà. La proclamation c'est le déjà et certaines de ces prophéties ou ces promesses vont s'accomplir plus tard dans le temps. Et donc il s'agit du pas encore. Et pour comprendre un peu cette notion qu'on retrouve dans toute la Bible, il y a une illustration que j'aime beaucoup de Oscar Kuhlmann qui était professeur du Nouveau Testament à l'université de Strasbourg de 1930 à 1973. Vaut mieux écouter les gens du cru, ok? Il prend une illustration et en plus il est touché par cette illustration parce que ça va nous concerner nous aussi qui vivons en Alsace. Il va prendre l'exemple de la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. La victoire de la Seconde Guerre mondiale va s'opérer en deux victoires clés, en deux temps. Il y a le fameux jour J, le 6 juin 1944, qui marque le début du... Dites-le, débarquement. Restez avec moi. Qui marque le début du débarquement, le débarquement des forces alliées en Normandie. Et une fois que le débarquement réussit, la victoire était déjà certaine. Pourquoi ? Parce que la guerre prend un tournant qui va être décisif. Son issue est devenue irréversible. Pourtant, la victoire complète n'est pas encore établie au vu et au su de tout le monde. Il a fallu attendre le 8 mai 1945 et le fameux jour V, jour de la victoire, et surtout de nombreuses batailles sanglantes, certaines batailles les pires de toute la guerre pour que les hostilités prennent fin définitivement et que le succès de l'intervention fût totalement manifeste. Dans le combat spirituel, notre jour J, c'est le jour où Jésus est ressuscité des morts. Quand Jésus est ressuscité des morts, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, la victoire, tout est accompli. Jésus a déjà vaincu Satan. Et d'ailleurs, Paul en parle dans Éphésiens 1. Et notre jour V, c'est le jour du retour de Jésus. Et ce jour-là n'a pas encore lieu. Donc il y a un déjà, il y a du pas encore. Dominique Angers encore le résume ainsi. Le fruit de la victoire de Christ ne sont pas encore complètement apparents. Christ n'a pas encore complètement neutralisé ni jugé ses ennemis. On le voit d'ailleurs en lisant l'Apocalypse et les textes du Nouveau Testament. En cette période intermédiaire, les batailles font rage. Or, nous connaissons déjà l'issue de la guerre. L'ennemi combattu est un opposant déjà vaincu. Notre responsabilité n'est pas de remporter la victoire. Cette dernière est déjà acquise. C'est de tenir ferme et de résister. Bienvenue au temps de la résistance spirituelle, les amis. Certaines mauvaises habitudes, elles disparaissent avec le temps de la maturité spirituelle. Certaines victoires sont acquises dans les années qui succèdent notre conversion. Certaines personnes verront leur maladie être vaincue par Dieu de leur vivant. On appelle ça les arts de l'esprit. Paul en parle beaucoup. C'est des avances que Dieu fait sur cette victoire. C'est dans le déjà là, mais c'est juste les prémices de la victoire totale qu'on va avoir en Jésus-Christ. Certains verront leur maladie être vaincue sur terre, mais ils mourront quand même plus tard. Alors ils expérimenteront comme tous les autres la victoire totale, le fameux jour V. D'autres connaîtront aussi cette victoire totale sur la maladie, mais à leur mort et à la résurrection des morts. Pour eux, ce sera aussi un jour de triomphe, un jour de libération, car ils seront en présence de Dieu, leurs larmes seront essuyées, totalement libérées de toute infirmité, totalement libérées de toute pression du péché et de leur humanité. Dans tous les cas, le chrétien en Jésus-Christ est victorieux. Amen. Fortifie-toi, prends courage. Tu n'as pas un problème parce que tu n'es pas un chrétien qui enchaîne victoire sur cette terre. Tu es dans le déjà et le pas encore. Dieu est ton contrôle, alors fortifie-toi, tiens ferme et prends courage. Alors vous allez me dire, mais Mathieu, comment tenir ferme? Allez-y, dites-le. Alors merci beaucoup de poser la question. C'est très simple. On a juste à lire les versets qui suivent. Le verset 11. Couvre-toi entièrement de l'armure complète que Dieu t'offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Couvre-toi entièrement de l'armure complète de Dieu pour tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Et quand Paul ici emploie le mot « ruse », il parle de toutes les stratégies de Satan qui visent à nous faire douter de notre identité, faire douter de notre salut, nous faire douter de notre héritage, le faire douter de notre appel, le faire douter de la victoire que Jésus a écrit a eu à la croix il y a plus de 2 000 ans de cela, de nous faire douter de nos convictions, de nous faire douter de nos confessions quand nous avons prié « Jésus, transforme-moi », nous faire douter de ces temps authentiques où on a dit « Je m'abandonne ». Il use de ruses, de stratégies pour te faire douter de ton alliance en Jésus. Et c'est pourquoi il y a un deuxième encouragement pour toi. Au cœur du combat, le discernement est ta plus grande force. Au cœur du combat, le discernement est ta plus grande force. C.S. Lewis, qui est un penseur et un écrivain apologète anglais, dira ceci. Au sujet du diable et des démons, les hommes peuvent commettre 2 erreurs. Elles sont diamétralement opposées, mais aussi graves l'une que l'autre. L'une consiste à nier leur existence, l'autre à y croire, mais à leur porter un intérêt excessif et malsain. Le combat spirituel doit se mener avec discernement, les amis. Quand Paul parle des ruses de guerre du diable, il est en train de nous dire « Attention, ne sois pas dupe, tu es au milieu d'un champ de bataille stratégique, ne te fais pas avoir, aie une vision plus large, ne regarde pas uniquement à ce qui frappe les yeux, discerne, aie une vision plus large, un peu comme l'officier James Darrell Edwards dans Men in Black. » On regarde et je reviens tout de suite après. Ou pas. T'oses pas, hein? Je ne bougerai pas tant que tu ne l'auras pas envoyé, Alex. C'est pas grave.
Qu'est-ce qui vous a pris ?
J'ai hésité.
Puis-je savoir pourquoi vous pensez que la petite Tiffany méritait de mourir ?
C'est la seule qui m'est parue dangereuse sur le moment, monsieur.
Et comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ?
Eh bien, je voulais d'abord plomber ce gars sur la réverbère, là, et puis j'ai compris qu'il faisait de la gym. Et moi, ça me ferait mal qu'un mec décide de me plomber pendant que je fais du rameur. Ensuite, j'ai vu ce monstre à l'air menaçant. Mais en voyant qu'il avait un mouchoir, j'ai compris qu'il n'était pas en train de grogner. Il est en train d'éternuer. Il n'y a pas vraiment de danger, quoi. Mais en voyant la petite Tiffany, je me suis dit, curieux, une fillette blanche de 8 ans, au milieu du ghetto, des monstres tout autour en pleine nuit avec des bouquins de physique quantique. Elle vient... Elle n'a pas plus de 8 ans. Ces bouquins sont bien trop avancés pour elle. À mon avis, elle n'est pas claire, la petite. Ouais, et j'aimerais sincèrement que vous me lâchiez un peu. Je pensais bien faire. Ou je dis pardon à la petite Tiffany.
Le discernement. Il n'y a pas un texte dans la Bible qui dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Des fois, dans le Ramdam, on est là en train de dire « Ah, c'est là, on voit des choses. Ah !» Et puis finalement, on en oublie de pratiquer le discernement. On en oublie de pratiquer juste l'observation. Juste observer une situation peut nous apporter beaucoup d'informations pour savoir comment traiter spirituellement cette information. Quand il s'agit du combat spirituel, tout le monde veut les dons spirituels de guérison, de foi, de connaissance, de puissance. Il me semble qu'il nous faille aspirer aux dons les meilleurs d'après la Bible. Et les dons les meilleurs, quand il s'agit du combat spirituel, il me semble que c'est le don du discernement des esprits et le don de sagesse. J'entends pas beaucoup d'amen, je le savais. Le discernement. Quand un chrétien né de nouveau, disciple de Jésus, repenti, actif dans sa volonté de suivre Dieu et ses commandements, vit un combat spirituel, on parle d'oppression. Il s'agit de combats oppressants dans les pensées. C'est parfois même tourmentant. C'est comme des tourments. C'est tellement dur ce que le chrétien est en train de vivre. Il y a des péchés parfois qui sont récurrents, qu'on a du mal à abandonner. Il y a parfois des maladies éprouvantes qui deviennent oppressantes pour notre corps ou notre psychisme. Et on appelle ça de l'oppression. Quand une personne qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance spirituelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, est mise au contact de l'Évangile, si ses propos, ses attitudes, ses mouvements, ses paroles sont manifestement antichrist, blasphématoires, violents, ténébreux, il est fort probable que nous soyons en présence d'une personne visiblement possédée. Un chrétien oppressé, et c'est là souvent que le bât blesse pour nous les chrétiens, un chrétien oppressé, et une personne possédée peuvent manifester leur souffrance de la même manière. Ils peuvent, à un moment donné, en étant touchés par la présence de Dieu, pleurer, crier, entrer en transe. Telle souffrance est là. Vous avez déjà remarqué, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du sport à outrance et ils ont failli vomir leur repas? Ok, je suis le seul. Vous pouvez lever la main juste un instant, je me sens ok. Parce que quand tu es dans des extrêmes, qu'est-ce que fait ton corps? Il évacue. Et parfois, notre corps, quand nous sommes oppressés, quand nous sommes dans de telles souffrances, le corps sait plus comment réagir. Les souffrances sont telles que là, on pleure. Les souffrances sont telles que là, on crie. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais en train d'essayer de poser un parquet. Je suis pas très, très manuel. Magali, elle a épousé le mauvais bonhomme là-dessus. Et à un moment donné, j'ai pris des années pour poser ce truc-là. J'en avais marre. Et puis, j'ai commencé à le poncer. Et en le ponçant, tu sais, avec la grosse lessiveuse, là. Et ben à un moment donné, je l'ai pas bien fait parce qu'en fait, la lessiveuse, faut pas la maîtriser, c'est elle qui te maîtrise. Et moi, je veux maîtriser. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de maîtriser et là, elle a tourné et elle a rayé mon parquet. Et là, j'ai crié, le voisinage a dû l'entendre. J'en ai marre de cette maison! Ça parle à quelqu'un ce matin. Dans le combat spirituel, dans l'oppression, les amis. Il peut arriver que nous sommes tellement au bout en tant que chrétiens que nous crions nos tripes, tellement nous en avons marre de retomber dans les mêmes péchés. Ça fait pas de toi un chrétien possédé, ça fait de toi un chrétien oppressé. Et parfois, il faut user de nuances, il faut user du discernement des esprits. Un chrétien peut manifester des transes, du tomber par terre, il peut crier, pleurer, et pourtant, un n'est pas né de nouveau, ne marche pas avec le Christ, n'a pas l'esprit de Dieu pour le conduire, et lui est possédé, et l'autre est oppressé. Et il faut demander à Dieu de nous aider à discerner avant d'intervenir n'importe comment. Une personne crie, pleure, tombe. On conclut directement qu'elle est possédée, alors peut-être qu'elle est juste engagée avec Dieu et elle vit des oppressions terribles. Et pour elle, parfois, c'est double peine. Une de mes plus grandes frustrations dans le pastorat, c'est d'accompagner des gens qui ont vécu des doubles peines. Non seulement elles sont oppressées, elles ont des souffrances, mais les chrétiens les ont encore fait plus souffrir en leur disant que Jésus les avait abandonnées. Nous allons nous précipiter pour la délivrer, lui imposer les mains avec précipitation, alors que la Bible dit « n'impose pas les mains avec précipitation ». Ordonner aux démons de sortir et en agissant ainsi sans discernement parfois, au préalable, on risque de combattre le mauvais ennemi. On tombe alors dans les ruses de Satan. Il n'attend que ça, que vous vous épuisiez là où il n'est pas. Et cela peut blesser profondément la personne dans le besoin. J'étais à un rassemblement jeunesse, un gros rassemblement jeunesse parisien, et j'étais l'intervenant principal, et il y a des moments de chapelle. Et dans ce moment de chapelle, moi j'aime bien, je suis au fond, je profite de la louange, j'interviens pas, donc là c'est juste du temps pour moi. Mais parfois on se rend compte qu'avec Dieu, il n'y a pas du temps pour nous, on est au service de Dieu, on est au service de Dieu. Hein. Et à un moment donné, une manifestation, une fille qui commence à crier, mes amis, mais je pensais pas qu'un être humain pouvait crier aussi fort. Et elle crie, elle commence à pleurer, et puis tout de suite un leader de jeunesse, je crois que c'était Spider-Man, il arrive comme ça, et il commence à la plaquer, il lui a imposé les mains, au nom de Jésus, et tu sors, etc. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je prie, et je dis, Seigneur, c'est quoi la source? Avant de prier juste, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Parce que si l'ennemi veut nous exciter, nous on est des hommes et des femmes de paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et à un moment donné, j'écoute les cris. Souvent les cris peuvent vous traduire, je ne sais pas comment vous l'expliquer là pour le coup, désolé c'est très personnel, mais le cri peut traduire des fois quel type de souffrance. C'est un peu comme les parents, tu sais. Le premier enfant, le cri, tu as l'impression que l'enfant il est à l'article de la mort. Au troisième enfant, tu dis « oh c'est bon ». Non mais il est en sang, oui c'est bon. Son frère va lui mettre un sparadrap, allez laisse-moi tranquille. Dans le monde spirituel, c'est pareil les amis, quand on passe du bébé à l'adulte, parfois il y a des cris comme ça, il y a des manifestations, tu es un peu plus affiné, tu demandes au Seigneur, et tu vois qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Et là, pour cette situation, je dis pas que c'est toujours le cas, ne systématisez pas mon exemple, je vous donne juste un autre exemple que celui qu'on a l'habitude de voir. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y a une conviction intérieure de dire, c'est pas un cri de possession ou quoi, c'est un cri de souffrance. Tranquillement, j'approche. Là, il faut être tranquille. Je pousse un peu les gens, et je dis « excusez-moi », et je veux juste interpeller le collègue un instant, dire « excuse-moi frère, je pense avoir une parole ». Il se retourne lui-même, celui qui prie, il est en transe aussi. Quand tu prends un peu de recul, là, tu analyses, tu observes beaucoup de choses. Le gars, j'ai l'impression qu'il allait me crier dessus, « tu vois pas, je suis en train… » Et quand il voit que je suis l'orateur principal, ça l'a calmé le frérot. Donc là, il s'est calmé, mais vraiment, il s'est calmé. Je dis, excuse-moi, on pourrait juste l'écouter parce que j'ai l'impression que le Seigneur dit qu'elle a peut-être quelque chose de profond en elle. Et donc, le gars était pas très, très content, mais du coup, on s'est assis. Donc, évidemment, tout le monde s'en va parce que c'est plus intéressant quand on va parler de la vraie vie chrétienne. C'est plus intéressant, en fait. Donc, tout le monde s'en va. Je me pose avec la fille, je lui pose des questions. En fait, cette fille ne voulait pas retourner en cours lundi. Ça faisait des mois qu'elle était harcelée. Elle était en train de crier à Dieu sa souffrance, qu'elle en avait marre d'être harcelée à l'école. On a pu parler avec elle, on a appelé ses leaders de jeunes, on a expliqué, on a écouté aussi, parce que le Saint-Esprit, il a justement, quand tu laisses parler la personne, le Saint-Esprit aide la personne à dire des choses. Et tu pries pour ça. Et on a prié pour certaines notions spirituelles de l'évangile dans sa vie, etc. Et on l'a accompagnée, et elle a été accompagnée par son groupe de jeunes, et elle a pu avancer. Je ne peux pas systématiser ce témoignage, mais c'est aussi des témoignages qui peuvent arriver. Il faut qu'on fasse attention à tirer trop rapidement. Parfois, il faut juste demander le discernement des esprits et l'esprit de sagesse à Dieu aussi. Usons de sagesse pour emmener la paix de Dieu là où il y a la confusion. Parce que souvent, Satan veut rendre confus le peuple de Dieu par rapport à certaines manifestations. Nous devons être dans la paix. Nous sommes des artisans de paix. Nous n'avons pas à avoir peur de l'ennemi, c'est l'ennemi qui a peur de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Intéressons-nous à la personne, intéressons-nous à son parcours, apaisons-la, échangeons avec elle, puis prions pour elle, prions avec elle, selon ce que le Saint-Esprit nous révèle. Parce que oui, des fois, il y a des choses qui ont besoin d'être débloquées dans la vie des gens. Mais laissez le Saint-Esprit faire son travail aussi. À l'épi, il peut y avoir des manifestations, nous n'en avons pas peur, et au contraire, nous croyons qu'il y a un combat contre les ténèbres et la lumière. Là n'est pas le problème pour nous. Par contre, nous refusons que ce soit un spectacle public. Nous refusons que ce soit un spectacle public. Nous allons voir la situation, analyser la situation, faire ce qu'il peut. Et c'est pour ça qu'on a un conseil spirituel avec l'équipe pastorale qui est là. Ils sont badgés, comme ça, ça vous permet aussi de voir que ce sont des responsables en église. Et selon la manifestation, ils vont venir là, ils vont voir la situation, ils vont peser, puis ils vont accompagner la personne. Et si c'est une possession, ils feront le travail pour que les démons soient chassés. Si c'est une oppression, ils feront le travail pour que les liens soient brisés. Mais ce qui est important pour nous, c'est la dignité de la personne. La dignité et le discernement, ce sont nos deux pratiques ici à l'EPI, en s'appuyant sur la démarche personnelle de la personne. Amen. Ok, il y a quelques personnes qui me suivent, c'est cool. Un autre encouragement de Paul. Au milieu du champ de bataille, puise ta force dans l'évangile. Tout l'évangile, rien que l'évangile. Ça, c'est mon titre préféré du message, alors je vais le relire. Au milieu du champ de bataille, puise ta force dans l'évangile, tout l'évangile, rien que l'évangile. Je vous ai parlé de deux écueils qu'a soulevé C.S. Lewis. Et il y a un troisième écueil qui fait souvent beaucoup de mal dans nos milieux pentecôtistes et charismatiques. Et je suis moi-même tombé plein de fois dans ce piège-là. C'est interpréter la Bible, interpréter l'évangile, et notamment les textes qui parlent d'activité démoniaque, par le prisme de mon expérience personnelle. Mon expérience est la clé d'interprétation des textes bibliques. Mais voilà le problème. Mon arrière-plan réunionnais et alsacien est chargé spirituellement. Votre arrière-plan est peut-être catholique, bouddhiste, animiste, maçonnique, athéiste, musulman. Et votre arrière-plan peut avoir une mauvaise influence sur votre compréhension et votre interprétation du monde spirituel. Comment j'en suis rendu à réaliser cela ? J'ai grandi dans un environnement, donc à l'île de la Réunion, extrêmement spirituel, extrêmement spiritualisé. Et j'étais entouré de plusieurs pratiques religieuses. Pour vous la faire court, mon voisin peut être catholique, l'autre hindouiste, l'autre témoin de Jéhovah, l'autre musulman, l'autre hindou, l'autre athée, et on va manger un bon petit curry tout le monde ensemble, d'accord ? Mais chacun a ses pratiques spirituelles. J'ai grandi dans ce milieu-là. Et il y a plusieurs croyances, plusieurs pratiques. Et j'ai découvert, par exemple, qu'il n'y a pas que les pentecôtistes qui parlent en langue. J'ai découvert que les prêtres hindous parle aussi en langue. Moi, je pensais qu'il n'y avait que les pentecôtistes qui avaient le parler en langue. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention et discerner les manifestations spirituelles. Parce que parfois, leurs origines, ce n'est pas aussi lumineux que vous le pensez. J'ai découvert, par exemple, aussi qu'il y avait plusieurs pratiques de délivrance parmi les musulmans, parmi les hindous, dans plein de religions, chez les chamans. Il y a plein de pratiques de délivrance et ça ressemble aux pratiques que nous, on fait parfois. Il faut que tu vomisses pour qu'il se passe quelque chose. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Et j'étais choqué, parce que je pensais au début, quand les enseignements venaient, je dis « Ah, ça c'est l'évangile, c'est ça !» Et puis quand j'ai bourlingué un peu, je dis « Ah mince, il y en a d'autres qui pratiquent la même chose. » Mais où est le curseur ? Où est le curseur ? Les ruses de guerre de Satan. Je dis pas qu'il faut avoir peur de tout, je dis qu'il faut discerner toute chose. Retenir ce qui est bon, mettre de côté ce qui n'édifie pas. Un signe, une manifestation extérieure, même une formule avec à la fin « au nom de Jésus » n'est pas la garantie que la source provienne systématiquement de la lumière ou des ténèbres. Le danger qu'on observe et analyse dans le monde spirituel avec les lunettes de notre expérience, c'est qu'on se rend de plus en plus compte que la Bible n'est plus l'autorité sur nos pratiques, mais le moyen de justifier notre enseignement et nos pratiques. Et là, pour moi, en tant que pasteur principal, c'est un problème. Ton expérience n'égalera jamais l'autorité suprême de la parole de Dieu. Je sais que c'est pas simple, parce qu'on a tous emmené notre expérience dans notre vie de foi. Je suis juste en train de vous dire que la sagesse vient d'un grand nombre de conseillers. L'expérience seule risque de nous plonger, nous et ceux qui nous entourent, dans la confusion, les excès, le déséquilibre, l'indifférence, la division, bref, les ruses du diable. Et notre expérience seule ne peut nous faire, plonger dans le piège du syndrome du sauveur. Notre expérience seule imbibés de nos textes bibliques peuvent nous faire tomber. On ne s'en rend pas compte, mais j'en ai rencontré plein. Et moi-même, j'ai été, pendant longtemps, je pensais que j'étais le syndrome du sauveur pour expliquer aux gens comment être victorieux en Jésus-Christ. Nous avons la solution au combat spirituel. Nous sachons, c'est français, j'ai vérifié. Nous sachons, les autres ne comprennent pas parce qu'ils sont dans l'erreur, parce qu'ils sont moins spirituels, parce qu'ils n'ont pas les bons enseignements, parce qu'ils sont moins éveillés. Et la majorité des divisions d'église viennent de nos expériences. J'ai expérimenté ça. Tu ne veux pas expérimenter ça, je me casse. Raus. Le risque, c'est de tomber dans l'orgueil et finir par ressembler à celui qu'on a juré de combattre, Satan, le père des orgueilleux. L'expérience s'acquiert aussi en laissant les Écritures, l'Évangile et les enseignants nous enseigner, nous, les pratiquants, les praticiens. Par exemple, nous avons dans la lettre aux Éphésiens uniquement deux versets qui nous parle de Satan et de ses activités démoniaques, que deux sur tout l'ensemble de la lettre. Donc, un enseignant te dira qu'il ne trahira pas l'intention de l'auteur en remarquant que Paul insiste davantage sur qui le chrétien est en Christ, chapitre 1, 2, 3, 4, que sur comment fonctionne Satan et comment tu dois délivrer les gens. C'est un vrai choix apostolique assumé de la part de l'apôtre de mettre l'emphase sur Jésus plutôt que sur Satan. Est-ce que je peux entendre un grand amen pour ceux qui croient qu'il faut mettre plus l'emphase sur Jésus que sur Satan? Il s'aligne, Paul, en fait, il fait rien de nouveau là. Il s'aligne sur ce que Jésus prêchait déjà. Bien sûr que Jésus a parlé de l'ennemi, mais vous savez ce qu'il a dit, c'était son message le plus important. Tu connaîtras et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain, comme toi-même. Prêche et garde les yeux fixés sur le Dieu de la vérité, plus que sur le Père du mensonge et sur ses démons. Un autre exemple, on continue la lecture d'Éphésiens, verset 12. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels. Je lis dans la version Parole vivante, parce que il pousse l'idée de l'auteur, voilà, ça donne vraiment une vision encore un peu plus large. Mais contre la puissance, contre les puissances occultes, contre une organisation satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre les légions, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents de quartier général du mal. Majorité, écoutez bien ça, c'est important pour comprendre ce texte. Majorité de commentateurs bibliques qui ont creusé le texte plus que 60% d'entre nous là. La majorité des commentateurs bibliques s'accordent pour préciser que ces expressions que je viens de lire ici disent tous en fait la même chose. Pas besoin d'extrapoler, d'y voir un message subliminal caché ou quoi. En utilisant des expressions telles que puissance, autorité, souverain, principauté, esprit du mal, Paul ne cherche pas ici à développer comment s'organise le monde ténébreux, diabolique, le monde des ténèbres, ou combien il serait puissant, ou combien il serait super bien organisé, mais plutôt il cherche à faire prendre conscience aux chrétiens qu'ils sont face à un véritable ennemi doté de capacités d'action, c'est tout. Il est en train de leur dire, vous êtes au milieu d'un champ de bataille. Votre ennemi, le diable, agit, il est en action, c'est ça le message. En gros, il essaye de les secouer. Parce que parfois, je sais pas pour vous, mais je suis un peu endormi. Ce texte veut nous rappeler, à nous peut-être qui n'avons pas l'arrière-plan spirituel des Éphésiens, un arrière-plan spirituel occulte, que le diable n'est pas une métaphore. Le diable n'est pas une métaphore. Le diable n'est pas une légende. Le diable existe. Et c'est l'ennemi de notre Dieu. Et c'est donc notre ennemi à nous. Et le diable, il agit. Le diable veut faire du mal. Le diable n'est pas là pour se tourner les pouces. Et eux, hier, les Éphésiens, comme nous aujourd'hui, nous devons alors nous équiper en conséquence. Et c'est pourquoi, dans les versets qui suivent, Paul va dire, réveillez-vous, vous êtes au milieu d'un champ de bataille. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Soyez centrés sur l'Évangile. Regardez ce qu'il dit. Verset 13. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour. On n'échappera pas au mauvais jour, les amis, mais on peut tenir bon dans les mauvais jours. Lors d'épreuves, de tentations, dans le pas encore. tenir ferme aux mauvais jours, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible, tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Verset 14. Soyez donc prêts au combat, debout, ferme, que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse. Et c'est là que c'est intéressant, devant Dieu et les hommes. Parce que l'évangile n'est pas que théorique, il est pratique. Et c'est en pratiquant l'évangile qu'on vit la délivrance et la victoire. Sinon, ça reste de la théorie. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle de salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Verset 16. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées du malin. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et la promesse et les promesses de Dieu. Quel passage, les amis! Et ces passages nous font plusieurs fois référence à Ésaïe 59. Pour les lecteurs, vous aurez reconnu que ça parle de l'armure de l'Éternel, l'armure du Messie. Et voici la bonne nouvelle, voici l'évangile. C'est que l'armure du Messie, l'armure que prophétise Ésaïe, devient notre armure en Jésus-Christ. Cette armure dont on vient de lire là, elle nous est accessible à nous en Jésus-Christ. Et en fait, Paul ici ne fait que renvoyer cette armure, l'image de cette armure, au premier chapitre. En fait, le salut y est, l'identité y est, l'appel y est. En fait, il ne fait que dire maintenant, vous voyez, tout ce que je vous ai enseigné là, maintenant, il faut l'emmener dans la vraie vie avec vous. Il faut le pratiquer, il faut que ce soit quelque chose de pratique. Il faut que vous rendiez ça complètement pratique aujourd'hui. Chaque partie de l'armure nous renvoie à un chapitre de 1 à 4 sur l'identité, le salut, l'appel, l'héritage, toutes des dimensions de l'évangile. Alors permettez-moi de résumer ce grand passage. J'ai beaucoup hésité dans la préparation, mais je vais laisser quelqu'un de mieux que moi le résumer encore une fois, parce que je voudrais qu'on en arrive à la fin de ce message en citant ici Dominique Anger sur les armures du chrétien. Qu'ont en commun toutes ces armes que Dieu met à notre disposition? Oui, il manque un T au haut. Qu'ont en commun toutes ces armes que Dieu met à notre disposition? Elles sont chacune une facette de l'évangile. Comment combattre le diable et ses représentants? Par un attachement grandissant à l'évangile, c'est-à-dire au message ayant pour centre la mort, la résurrection et l'exaltation de Christ. Tout tourne autour de l'évangile, de ses implications pratiques et de sa proclamation. L'essentiel y est. Spiritualité, méditer la vérité, méditer la parole, prier, l'éthique, avoir une vie conforme aux valeurs de l'évangile et le témoignage. Tout est dans l'évangile. On n'a pas besoin de chercher après une nouvelle méthode. Tout est déjà dans l'évangile. En d'autres termes, Paul ne nous incite pas à combattre le diable et ses anges en nous préoccupant de leur présence de manière directe, en voyant le diable partout ou en cherchant constamment à chasser des démons et à délivrer les personnes. Par les images très riches de notre texte, donc quand il parle de notre texte, c'est des armes du chrétien, il nous enjoint plutôt de méditer, de vivre, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà ce qui entravera véritablement l'action de l'ennemi. Dernier encouragement. Tes victoires découlent d'une succession de choix et d'actions alignées sur les valeurs de l'Évangile. Tes victoires découlent d'une succession de choix et d'actions alignées sur les valeurs de l'Évangile. Alors, persévère. En finissant sa lettre, Paul savait que pour passer de la théorie de la victoire à la pratique de la victoire, il fallait non seulement un déclencheur, c'est-à-dire l'enseignement, prêcher l'évangile, mais il fallait aussi un diffuseur. Et ce diffuseur, c'est la prière qui est alignée sur l'évangile. Je lis avec vous le verset 18. « Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. » Car l'efficacité de ces armes, c'est-à-dire d'une vie pratique, d'une vie concrète, d'une vie de tous les jours où l'évangile influence ma vie, l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Si tu bailles quand tu pries, ne sois pas étonné. T'es au cœur du combat. Car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc en alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, rempli de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tous ceux qu'il vous aura mis à cœur. Vous voulez voir les gens être libérés d'oppression, de possession? Priez pour les gens. Intercédez dans le secret. Demandez à Dieu de se manifester. Quand vous voyez des choses se manifester, commencez à prier. Avant d'agir, priez. Avant d'agir, priez. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. La prière, les amis, c'est dire à Dieu tes besoins. C'est confesser ses valeurs et ses commandements à Dieu. Les commandements de Dieu à Dieu, c'est les confesser, le dire « Je crois dans ta sainteté. Je crois que le salaire du péché, c'est la mort. » Tu es le Dieu de la vie, je veux pas servir le Dieu de la mort. C'est confesser à chaque jour, c'est confesser dans sa vie les valeurs de Dieu, les commandements de Dieu. La prière, c'est écouter son évangile nous parler. Je vais inviter Carole à venir. Après ma conversion, j'avais un lien qui était encore, et je parle de lien, parce que pour moi c'était un lien. J'avais un lien encore très présent que je traînais avec moi. Je disais toujours des micro-mensonges. Alors, je sais que vous connaissez pour certains mon petit témoignage, mais c'est moi vous emmener un petit peu plus loin. J'exagérais souvent. Au lieu de dire dans mon témoignage de conversion que j'avais volé 20 euros, je disais que j'avais volé 100 euros. Je pensais que ça allait faire un petit peu plus de « Waouh ! Comment Dieu l'a sauvé, ce grand voleur devant l'Éternel ?» Quand je donnais des détails sur ma vie de dealer, par exemple, au lieu de dire que j'avais vendu 20 grammes, je disais que j'en avais vendu 100. Et j'avais appris cette méthode de micro-exagération dans la rue. Et ça me permettait souvent de ne pas passer pour le fragile du quartier. La micro-exagération. Pourtant, c'est juste un petit mensonge, n'est-ce pas ? Mais à la lumière de l'évangile, un mensonge est un mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge ou de grand mensonge. Il n'y a pas de petit péché et de grand péché. Il y a le péché. L'exagération, c'était limite quelque chose d'instinctif. Moi, je ne sais pas comment vous le décrire. Peut-être certains se reconnaîtront, mais moi, j'étais disciple de Jésus, j'étais rempli de l'esprit, parlant langue, j'exprimais des dons spirituels, j'allais dans la rue, j'emmenais des gens au Seigneur, ils venaient écouter l'évangile. Mais j'avais cet aspect en moi où j'étais un micro-menteur. J'exagérais. L'exagération, c'était quelque chose que j'avais du mal à m'en séparer. C'était un péché récurrent et ça me faisait énormément culpabiliser parce que je sais que je ne suis pas, j'appartiens pas au Père du mensonge, mais j'appartiens au Père céleste. Et puis ça a fini par m'oppresser. J'osais plus témoigner. J'osais plus dire que j'étais chrétien. Finalement, le diable avait réussi à me museler. Et encore, s'il n'y avait que les micro-mensonges dans ma vie après ma vie chrétienne. Les pièges de la pornographie, de la tricherie, de la jalousie, la volonté de ne pas pardonner à celui ou celle qui m'a blessé. Ça vous est déjà arrivé, ça, après votre conversion, d'avoir du mal à pardonner ? La flemme, l'oisiveté. Punaise, pourtant j'étais né de nouveau. Je suis rempli de l'esprit. Je suis un disciple engagé. J'ai été baptisé. Pourtant, j'étais en combat spirituel, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Est-ce que j'ai un problème ? Comment est-ce que je peux sortir de mes oppressions, Seigneur ? Et vous savez quoi ? Mes victoires en Christ sont venues d'une succession de choix et d'actions que j'ai fait en alignant ma vie sur l'Évangile. L'Évangile m'a toujours libéré. Écoutez-moi bien, j'exagère pas. Je vous le soumets. L'Évangile m'a toujours libéré. J'ai besoin d'un seul libérateur, c'est Jésus-Christ. Oh, des gens ont prié pour moi, des gens m'ont accompagné. Mais ce n'est pas les gens qui me libèrent, c'est l'évangile du Seigneur qui me libère. L'évangile me rappelle que je ne suis pas un problème parce que je n'enchaîne pas victoire sur terre. L'évangile me rappelle que je suis dans le déjà et le pas encore. Et Dieu est au contrôle. Alors je me suis accroché. Je me suis fortifié, j'ai tenu ferme, j'ai pris courage. Et comme le préconise Paul, j'ai persévéré dans la prière. J'ai reconnu à Dieu mon besoin. Seigneur, je mens, j'exagère. Il y a ça dans ma vie qui va pas. Seigneur, je reconnais que ces choses ne sont pas à ta gloire. J'ai confessé les valeurs de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es saint, je suis pécheur. Tu es saint, j'ai besoin de changer. J'ai crié à Dieu, j'ai prié à Dieu, notamment pour ce mensonge, c'est cette pratique du mensonge. J'ai finalement aussi écouté Dieu me parler au travers de son évangile. C'est ça aussi la prière. Vous savez, Dieu m'a donné un conseil pratique. Il a dit, confesse tes péchés. Et confessez vos péchés aux autres. Comment ça s'est rendu pratique pour moi qui exagérais quand je parlais avec quelqu'un ? À chaque fois que je racontais mon témoignage à quelqu'un ou que je parlais, que j'exagérais, vous savez ce que je faisais ? Je me repentais devant la personne. Je disais, excuse-moi, là j'ai exagéré. C'est pas 100, c'est 20. Et je me repentais, c'était tout à fait pratique et j'ai commencé à le faire avec une personne, puis avec une autre personne. J'ai confessé mes péchés aux autres et je me suis rendu compte des semaines plus tard que j'étais complètement libéré du mensonge. Et ça a été pareil dans plein de domaines de ma vie où l'évangile vient me transformer. Le problème, c'est ce que disait John Maxwell, c'est un message qui m'a touché dernièrement. Il disait qu'on va avoir la victoire des sommets, mais on garde la mentalité de la vallée. Si tu es dépendant des autres, tu ne vivras pas la victoire. Sois dépendant de l'évangile. Sois dépendant de l'évangile. Dans le domaine de la colère, du non-pardon, toutes ces choses, Dieu m'a sorti vainqueur, non pas par mes propres forces, mais à cause de sa victoire, et moi j'ai persévéré. J'ai persévéré. Alors comment tu peux sortir ce matin d'habitude, de péché, de mensonge, d'addiction, d'oppression ? Persévère. Le verset 23 dit ceci. Que la paix soit avec tous les frères. Que Dieu vous l'accorde avec l'amour et la foi. Le verset 24. La grâce soit pour toujours, écoutez bien ça, avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour sincère et qui lui restent attachés avec une fidélité inaltérable. Tu es en train de combattre, tu es dans des oppressions, fortifie-toi, prends courage, prends le courage de vivre l'évangile, prends le courage comme moi de confesser quand j'exagérais, de dire attends, je suis en train de te dire un mensonge, je te demande pardon, je veux apprendre à te dire la vérité. J'aimerais inviter peut-être l'église à se lever, on va prendre un temps de prière. Et nous croyons avec le conseil spirituel ce matin que il y a des victoires du déjà qui peuvent être vécues ce matin. Que Dieu nous aide à vivre le déjà. Et peut-être après ce jour, il y aura des pas encore. Mais c'est pas grave. Parce qu'on sera connu dans le monde spirituel, non pas pour être une église parfaite, mais pour être une église qui persévère. Une église qui persévère. Persévérons à demander à Dieu sagesse. Persévérons à demander à Dieu discernement. Soyons une église connue dans le monde spirituel pour être une église qui discerne avant d'agir. Persévérons à méditer l'évangile. Que l'évangile. Rien que l'évangile. Peut-être seul ou en église, mais persévère à méditer l'évangile. Et persévérons à aligner notre vie avec l'évangile. Certainement, cette semaine, tu vas vivre ta délivrance parce que tu vas arrêter de mentir au travail. Tu vas arrêter de mentir à des gens que tu aimes. Tu vas arrêter de pratiquer des choses qui déshonorent Dieu. Alors oui, ça va être compliqué parce que tu as pris des habitudes. Mais Dieu est le Dieu qui ne méprise pas les petits commencements. Chaque étape de repentance que tu fais, même si c'est une petite repentance, Dieu le voit et il te fortifie. Ta victoire vient parce que tu t'alignes avec l'évangile, n'oublie jamais ça. Ta victoire vient et elle découle d'une succession de choix et d'actions. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Je te remercie pour cette lettre des Éphésiens. Je te remercie, Seigneur, parce que tout est accompli. Ça, c'est l'évangile qu'on aime à l'épi. Tout est accompli. La victoire, elle est déjà acquise par Jésus-Christ. Et nous marchons dans cette victoire aujourd'hui. Nous marchons dans cette victoire. Ta vie, Seigneur, c'est notre victoire. Ce que tu accomplis à la croix, c'est notre victoire. La résurrection des morts, c'est notre victoire. La repentance, c'est notre victoire. Seigneur, nous allons prendre ce chant, ta vie est ma couronne. Je te prie que le Saint-Esprit visite l'Église, le plus grand ou le plus petit, afin que l'esprit de persévérance rentre dans nos cœurs ce matin. Quelqu'un qui a dit « j'abandonne, j'y arriverai plus, je changerai plus », le Saint-Esprit te dit « persévère mon frère, ma sœur, persévère ». N'aie pas peur de demander encore pardon à Dieu. 7 fois, 77 fois, le Seigneur pardonne, parce que le Seigneur veut ta transformation. Le Seigneur veut ta transformation. Seigneur, je te prie vraiment pour des personnes ici qui ont besoin de vivre une victoire. Je te prie pour qu'il y ait des délivrances. Je te prie, Seigneur, pour que le péché soit vaincu. Je te prie pour que les oppressés soient libérés. Je te prie, Seigneur, pour que ta victoire soit ce matin notre victoire. Je te demande cela dans le nom de Jésus. Le Seigneur, Dieu fait homme. Je ne prêche pas n'importe quel Jésus. Je prêche Dieu qui s'est fait homme à la personne de Jésus. Jésus le Messie, Jésus le Seigneur, Jésus le Roi des Rois, Jésus celui qui règne, Jésus celui que nous reconnaîtrons transpercé quand il reviendra prendre son Église, Jésus celui qui a écrasé Satan, Jésus celui qui musellera Satan. Seigneur, je te demande vraiment de soutenir celui qui est fatigué, chargé ce matin. Merci Seigneur, parce que tu vas le faire. On prend ce chant de louange et après on va continuer à prier. Alléluia. J'aimerais inviter un disciple de Jésus, je parle bien de personnes disciples de Jésus. Vous savez que vous êtes né de nouveau, vous êtes repenti, vous avez accepté le Christ dans votre vie. Vous avez fait du Christ votre modèle, votre guide, votre Seigneur. Vous avez expérimenté le fait d'être rempli du royaume de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Vous marchez avec Dieu, vous aimez Dieu, vous battez pour vivre avec une vie alignée sur l'Évangile. Mais voilà, vous avez du mal à décrocher. Il y a des domaines dans votre vie où c'est difficile pour vous. Bienvenue dans une église qui croit dans la grâce de Dieu. Bienvenue dans une église qui croit que Dieu relève son enfant qui est touché par des liens, par des oppressions. Alors nous allons user de compassion comme l'apôtre Paul le demande dans son épître aux Éphésiens, en priant pour celles et ceux, ses serviteurs qui ont besoin. Ici, nous chassons tout esprit, toute pensée de jugement. Nous aimons Dieu, nous reconnaissons qu'il est parfait, que nous ne le sommes pas. Mais nous voulons prendre ce moment ensemble pour demander que la victoire de Dieu continue de s'opérer dans la vie de quelqu'un qui en aurait besoin. Si tu sais que dans ta vie, certains alignements ne sont pas bons, tu sais que tu as besoin encore et encore de persévérer et de te fortifier, ce matin, Dieu te donne l'Église pour t'entourer et pour prier pour toi. Si tu as besoin de prière ce matin, j'aimerais simplement que tu puisses le signifier en disant: Mathieu, j'ai encore besoin de prière. J'ai encore besoin d'avancer avec Dieu. J'aime tellement Jésus que je ne peux pas rester dans l'état où je suis. Alors si c'est ton cas, Dieu connaît ta situation, nous n'avons absolument pas besoin de le savoir. Tu as juste, pour te faire connaître, qu'on puisse prier pour toi, lève ta main et dis: Mathieu, j'aimerais que l'Église prie pour moi. Et n'ayez pas honte. Vous savez quoi? Moi je lève ma main parce que j'ai besoin que vous priez aussi pour moi. Levez bien votre main et Il y a des disciples de Jésus, il y a le conseil spirituel qui est là aussi. Et on va prier pour vous. Parce que Dieu est le Dieu qui chasse l'oppression. Dieu est le Dieu qui pardonne les péchés et qui nous rend victorieux du péché. Seigneur, gardez vos mains en l'air, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Seigneur, nous te prions pour les disciples de Jésus maintenant, qui reconnaissent qu'ils sont dans des combats. Ils reconnaissent, Seigneur, qu'ils chutent et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu pour les relever, les transformer et les rendre victorieux. Je ne sais pas où ils en sont dans le déjà et le pas encore. Ce que je sais, c'est que leur victoire est assurée dans le nom de Jésus. Ce que je crois, c'est que tu as appelé l'Église à être l'appui et la colonne de la vérité. Alors nous proclamons cette vérité. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Sauveur. Jésus, tu es le vainqueur. Et nous te prions que ta victoire se manifeste dans la vie de quelqu'un qui a levé sa main ce matin. Que toutes les tentations soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Que les décisions saines soient prises dans la vie de tous les jours. Nous te prions pour qu'il y ait un soir et un matin et que ce soit le nouveau jour, une nouvelle étape. Nous te prions, Seigneur, pour libérer quelqu'un. Te prions d'alléger quelqu'un qui a besoin que le libérateur vienne non seulement le pardonner, mais vienne briser tout ce qui en lui le tient encore lié, Seigneur. Nous brisons les liens maintenant. Dans le nom de Jésus, non pas notre force. Si je fais cette prière, c'est parce que je crois que Jésus à la croix a brisé tous les liens. Alors je veux le dire encore aujourd'hui, je veux rappeler l'évangile encore aujourd'hui. Seigneur, je te prie de soutenir. Je te prie vraiment, Seigneur, de guérir aussi les cœurs brisés. Plusieurs viennent avec des problèmes de cœur ce matin. Et je te prie, Seigneur, de guérir les cœurs brisés. De leur rappeler qu'avec toi, tout est nouveau, Seigneur Jésus. Le passé toxique à la lumière de la croix est maintenant brisé dans le nom de Jésus. Nous voulons croire, Seigneur, que ce qui reste de notre passé, c'est notre expérience que Jésus a été fidèle. C'est tout. C'est tout. Seigneur, merci d'accompagner nos frères et nos sœurs. Nous prions afin que cette semaine, ils soient des serviteurs du Dieu très haut. Que dans l'intimité comme en public, ils puissent trouver en toi les ressources pour bien s'entourer, pour faire les bons choix. Je voudrais te prier pour toute l'Église, Seigneur. Je te prie que nous soyons une Église de l'Évangile. Je te prie que nous soyons une Église qui prêche l'Évangile, rien que l'Évangile, tout l'Évangile. Je te prie de nous aider à trier, Seigneur, tous les enseignements, surtout dans le domaine de la délivrance. Oui, nous croyons que tu délivres. Oui, nous croyons qu'il existe des démons et que Satan existe vraiment. Mais nous nous souvenons que Jésus, lui, il est au-dessus de tout. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alors on le reprend ensemble, du haut des cieux, et proclamons-le en intercession ce matin. Du haut des cieux, tu règnes.
La continuité de tout ce que Mathieu vient de dire, tout ce que Dieu vient de nous dire à travers Mathieu, il y a l'espace écouter prière. Pour ceux qui ont besoin d'être écoutés, on prie pour eux, puis aussi vous rappeler qu'avec toute l'équipe pastorale, on se tient à disposition toute la semaine. À chaque jour, on rencontre des gens qui ont besoin de conseils de vie chrétienne, d'être accompagnés, on prie pour eux. Allez juste au point d'accueil, il y a un petit formulaire à remplir et nous on vous rappelle, on prend rendez-vous avec vous, on est là pour vous, on est là pour s'accompagner mutuellement. Donc n'hésitez pas, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Donc l'espace, écoutez prière. Juste demandez à la zone ici de bien vouloir libérer l'espace pour juste garder un petit peu d'intimité pour les personnes. Et le point accueil pour prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe pastorale. Voilà, touche à la fin de la célébration. J'espère que vous avez été fortifiés. Et n'oubliez pas, c'est aussi votre responsabilité. Fortifiez-vous dans l'évangile, dans Jésus. Fortifiez-vous. Je vous souhaite un bon dimanche à chacun et n'hésitez pas à rester vous aussi pour communier tous ensemble. Bon dimanche.